Merci Pierre, merci parce qu'on retrouve toujours chez toi cette beauté des mots qui permet de comprendre, qui brusquement illumine des choses qu'on sent. Tu as employé cette très belle expression, l'intelligence des mains, et je me suis dit oui, c'est de ça que j'essayais de parler tout à l'heure quand je disais rompre avec le désœuvrement, c'est retrouver l'intelligence des mains. Et puis tu as employé au début une expression que j'ai trouvée vraiment magnifique aussi, tu as dit je suis condamnée à combattre ce désert que j'aime, que pourtant j'aime. Et j'ai rapproché ça d'une image que Serge avait donnée à la fin de son intervention. Serge qui parlait de la canicule en disant c'est la canicule qui expliquera mieux que quoi que ce soit tout ce qu'on peut dire qu'il est temps de passer à autre chose. Et je pensais, oui, sauf qu'il y a eu la canicule, et pour ceux qui écoutent le bulletin météo, ce qui est une action hautement récréative, eh ben, on a continué tous les matins à dire « Et le beau temps se maintient !» Et je me disais, exactement, c'est là que nous nous tenons. Nous sommes condamnés à mourir de cette image que nous avons de ce qu'il y a de mieux. Nous sommes condamnés à mourir de notre image du paradis. Le paradis, c'est le beau temps, c'est le soleil, c'est les cocotiers. On va en mourir du beau temps. Et ce désert qu'on aime tellement, et effectivement, c'est beau le désert, on est condamné à se battre contre lui, parce qu'il y en a trop. Il y a trop de chaleur, il y a trop de sécheresse, il y a trop de désert. Donc, je crois que la difficulté autour de quoi on tourne depuis 2 jours, c'est de se retrouver confronté finalement à attaquer quelque chose que profondément on aime. Et il faut peut-être arriver à comprendre que l'attaquer, c'est pas le tuer, c'est simplement le récupérer, d'une manière ou d'une autre, le reprendre la maîtrise de ces choses qu'on aime et qui pourtant sont en train de nous tuer. Voilà. La parole est à vous.
Madeleine Nietzsche. Je vous ai abandonné un petit moment ce matin parce que je me trouvais dans une réunion des vétérans des essais nucléaires au Sahara, ce qui est aussi quelque chose de très important. Et sortant de là et revenant ici, il m'est apparu comme une évidence tout d'un coup qu'à travers le nucléaire, le commerce des armes était un des moteurs principaux de l'économie mondiale. Et qu'en entrant en décroissance, on allait probablement entrer dans une ère de paix. Qu'il y a une fonction à la décroissance qu'il faudrait souligner, c'est qu'elle est profondément pacificatrice.
Bonjour. Jean-Paul Gachet, je suis agronome, et je ne devrais pas le dire, mais j'ai travaillé à l'INRA pendant de nombreuses années, ce qui n'est pas nécessairement une référence. Je suis sorti de ma boîte, des boîtes dont parlait Pierre Rabhi, et je commence à faire de l'agriculture, enfin très très modestement, j'essaie de vivre de mon jardin, et je découvre aussi, enfin à travers un parcours qui m'a amené hors d'hexagonie, comme je dis, j'ai découvert la complexité des agriculteurs paysannes, et ces dernières années j'étais en Guyane française. Et je découvre, en Dordogne où j'habite, que la trufficulture, élément si noble qu'il soit, est un magnifique exemple pour découvrir la complexité des systèmes biologiques et combien les agronomes de formation occidentale ont oublié que le sol était un organisme vivant et qu'il fallait vivre avec lui pour essayer de lui faire donner tout ce qu'il pouvait donner. Mais bon, ça c'est une incidente. Ce que je voudrais dire à partir de ma petite expérience et d'agronome et de ma vie de retraité où j'observe le monde tel qu'il va, je suis de plus en plus de l'aveuglement du monde agricole, des tiers-mondistes, des alter-tiers-mondistes, des alter-mondialistes, etc. Parce que finalement, à aucun moment, enfin, ils veulent nous enfermer dans la logique du global. Tout serait global. Et à la fois, je pense qu'il faut penser globalement. Mais ils en oublient le local. Et que tout se joue au niveau local. C'est là où se tissent de nouvelles solidarités. C'est là où se bâtit une autonomie individuelle et collective, où se tissent de nouvelles convivialités, où l'on cultive des aménités. Et tout ça est absent du discours. Alors, et je suis très heureux que Pierre Rabhi, tout ce qui a été dit ces jours-ci, enfin ces 2 jours, nous amène à redécouvrir la nécessité, l'exigence de vivre localement, de reconsidérer le local, qu'il faut s'approvisionner localement, et donc se ressaisonner aussi. Il n'est pas question de manger des fraises en décembre, ce qui est fort agréable, de manger
des raisins aussi qui viendront du Chili ou d'Afrique du Sud. Et je crois que c'est là l'exigence fondamentale auquel nous sommes confrontés, comment retrouver le local. Et tous les altertermondistes, ils oublient le local. Si bien que... Enfin, beaucoup. Je me bats au sein d'attaque pour le dire. Et beaucoup d'altertermondistes semblent oublier le local. Comme d'ailleurs le parti de la grève, etc. Bon, enfin, c'est un petit peu de polémique, mais je crois que derrière le discours, et c'est ce qu'a dit Serge Latouche, derrière un certain discours altertermondiste, on oublie le local. Et tout se joue au niveau du local.
C'est un petit peu écrit, alors vous allez voir, ça va rattacher. Il a été aussi soulevé la question du travail, donc ça m'intéresse. Lorsque j'étais encore militaire, j'avais un bon revenu, mais j'avais pas de travail. Voilà. J'ai eu donc le temps de demander à mes collègues pourquoi ils étaient là. La réponse, pour avoir un revenu. Je le répète aussi, si les intermittents de la guerre ont un bon revenu, entre parenthèses, les intermittents du spectacle un peu moins. Donc je leur demandais si tu avais l'autorisation de faire ce que tu veux avec le même revenu. Bizarrement, la réponse n'était pas « j'irai massacrer mes voisins, surtout s'ils ont différentes couleurs de peau ». Non, la réponse était plutôt « je ferai mon jardin, j'élèverai des chèvres ». J'ai vraiment eu ces réponses au sein de l'armée et dans beaucoup d'autres aussi couches de la société. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que plutôt que de réduire même drastiquement le temps de travail, donnons le droit à chacun de s'investir dans les activités de son choix et couplons cela avec un revenu qui leur permette de le faire. Et je suis persuadé qu'ils s'investiraient dans le bien-être de leur entourage plutôt que dans la nuisance à l'autre. Aujourd'hui, c'est sous la contrainte économique que l'on déforeste. C'est sous la contrainte économique que l'on accepte de travailler dans une entreprise qui pollue pour avoir un revenu suffisant pour acheter bio. Et pour vous rassurer sur le droit à s'investir dans l'activité de son choix, il a été fait une étude, alors juste au niveau français, je suis désolé d'avoir un relent de nationalisme, mais l'étude se limite à la France. Les deux activités les plus prisées par les Français sont le jardin et le bricolage.
Bon, ben moi, excusez-moi, c'est ultra global. Ce matin, une jeune femme a abordé le problème, si c'était la même chose, la récession et la décroissance. On ne lui a pas vraiment répondu. Or, je crois ne pas me tromper, je pense qu'il y a un certain nombre de gens ici qui s'en rendent compte, nous sommes actuellement entrés dans une phase de forte récession. Les entreprises, les services publics, l'enseignement, la recherche témoignent déjà de graves dysfonctionnements. Qui reste encore à analyser dans toute leur ampleur. Le chômage augmente et on va nous imposer par l'État et par la communauté, l'Union européenne, les sacrifices indispensables que nous réclamons par ailleurs au nom de la décroissance. Alors, comment instiller de la décroissance dans cette situation de pré-catastrophe ? Est-ce que nous en sommes capables? Est-ce que nous allons trouver les modes opératoires et même médiatiques pour exprimer ces opinions? Et quel plan d'attaque pour les objecteurs de la croissance qui, eux aussi et moi aussi, se retrouvent au pied du mur?
Moi, je m'appelle Catherine et j'aimerais justement répondre à la personne qui est intervenue sur les altermondialistes et sur le local. Je me sens pas du tout attaquée parce que je pense qu'au départ on est tous des éco-citoyens et il faut arrêter de mettre des étiquettes sur tout. Je trouve que c'est un peu énervant. Ah bon. Donc moi ce que j'aimerais c'est faire une proposition qui sont très souvent mises en place localement par des altermondialistes et par d'autres gens. Ça s'appelle une AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. La charte de l'agriculture paysanne a été initiée par la Confédération paysanne. Les AMAP sont très souvent mis en place par des membres des comités de l'insurrection des consciences, qui a été lui-même initié par Pierre Rabhi au départ. Et il y a des gens de la conf, il y a des gens d'attaque, il y a aussi des citoyens qui n'ont pas forcément d'étiquette. Et ça consiste à mettre en relation directe un agriculteur, donc là on est vraiment dans le local, c'est même très très localisé, c'est à 20-25 km de distance, il ne faut pas que ça soit plus loin. Et donc il y a un groupe de consommateurs et un producteur, que ce soit de fruits, de légumes, de viande, de tout ce qu'on veut, à partir du moment où c'est bio, voire sain, sans être certifié. Et ça consiste simplement à la distribution de paniers et à un circuit court de distribution grâce auquel on peut se passer d'autres moyens de grande distribution qui maintenant nous semblent plus intéressants. Voilà.
Bon, je suis moi aussi géographe, une corporation qui n'est pas très répandue ici, et je ne sais pas si ce que je vais dire convient au colloque. Je vais quand même essayer de le dire, et puis vous m'arrêterez si ça ne convient pas. J'ai fait un constat depuis hier, ou un double constat plutôt. D'une part qu'on a souvent, très souvent, et encore Serge Latouche tout à l'heure, insisté sur l'urgence. On a parlé du bolide qui nous conduit droit dans le mur, d'autres ont prétendu qu'on était déjà dans le mur. Donc on a l'impression qu'il faut faire quelque chose vite. Par contre, il y a eu beaucoup d'exposés, beaucoup trop d'exposés à mon sens, sur le diagnostic qui a été fait, sur l'historique de la notion de croissance par exemple, sur... Bien que ces exposés aient été intéressants, moi ça m'a appris parfois, par exemple, la vie de Georgescu. Bon, c'était intéressant, mais je n'ai pas l'impression qu'on répond au sentiment d'urgence qui a été exprimé par de très nombreux orateurs. Le deuxième constat qu'on peut faire est qu'on a très souvent aussi mis l'accent sur des solutions individuelles, sur des changements de comportement individuels, sur des expériences collectives, mais quand même limitées. Or, on sait que le système est extraordinairement capable de digérer la marginalité, de tolérer la marginalité, de récupérer. Donc, il me semble que ça ne menace d'une part nullement le système, ces expériences marginales. Exemple, les communautés de l'Arche de Lanzarote et Vasto. Depuis 50 ans, ça existe. Et Raffarin est toujours là, ou Raffarin est advenu. Oui, c'est un raccourci, mais il faut faire assez vite. Et donc j'aurais une proposition à faire, je ne sais pas si elle peut être faite dans cette enceinte, mais je la fais quand même. J'y réfléchis depuis plusieurs mois, dans le cadre du groupe Nord-Sud d'Attaque-Isère, bien qu'Attaque-Isère n'ait pas beaucoup aimé la proposition, il a essayé de la torpiller, mais je surnage et je l'exhibe, cette proposition, je la formule dans toutes les enceintes possibles. Cette proposition, ça serait celle donc d'un boycott généralisé, c'est-à-dire étendu à l'échelle mondiale, d'une part, et d'un boycott de certaines multinationales opérant à l'échelle du monde, travaillant et produisant divers produits, les produisant dans le tiers-monde, les faisant consommer de préférence dans le monde occidental. Donc, mettre en place, avec toutes les organisations qui coïncident sur le diagnostic, tout le monde ici est convaincu que la croissance ne nous mène à rien. Mais maintenant, il faut peut-être agir. Et donc, cette proposition d'action, ce serait cette mise en place par toutes les organisations possibles, en France et ailleurs, de ce mot d'ordre de boycott à la fois illimité dans le temps, car l'objectif n'est pas d'obtenir des multinationales qu'elles améliorent la condition des travailleurs dans le tiers-monde, mais qu'elles interrompent et qu'elles échouent dans leur processus d'exploitation toujours plus généralisé du tiers-monde. Donc, illimité, parce que ce qu'il s'agit de faire, c'est les mettre à genoux, c'est les faire échouer, c'est faire chuter l'action. Et vous savez, ça a été rappelé hier précisément par un autre collègue géographe, qu'un mois de grève a fait tomber de 1,5% le chiffre d'affaires des surfaces en France, et déjà ça a engendré l'inquiétude. Dans le même ordre d'idée, à propos des boycotts de produits français qui se mettaient en place aux États-Unis à partir de mars et d'avril, l'inquiétude du patronat français était évidente. Et j'ai recueilli dans une publication cette appréciation d'un patron français que, bien sûr, ça affecterait à la marge le chiffre d'affaires des exportateurs français, mais maintenant, la marginalité compte. Donc, le départ d'un processus de boycott ainsi généralisé commencerait à semer l'inquiétude, à faire chuter la valeur de certaines actions et peut-être à engager, à commencer cette pagaille financière que moi je verrais d'un très bon œil.
Donc ce matin, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait avoir une vision organique de l'économie. Allô ? Oui. Donc ce matin, ce que j'ai compris en fait, c'était que c'était intéressant d'avoir une vision organique de l'économie. C'est pas pour créer une polémique par rapport à ce qui s'est dit aux altermondialistes, mais bon, moi je suis pas ni monsieur Nikonov, ni Annick Coupé, ni etc. Et puis, donc la question c'est, est-ce qu'il serait possible d'avoir une vision organique de la démocratie et de ses processus?
Je voudrais poser une question à Serge Latouche, mais je vais commencer par argumenter avant de poser cette question. Tout à l'heure, il a dit qu'il lui semblait que le marché, une certaine forme de marché était compatible avec la décroissance, et moi je prétends le contraire, donc je vais essayer de m'en expliquer. Plus fort, d'accord. La croissance est soumise à des déterminismes structurels qui sont liés aux conventions monétaires et à l'obligation de profit qui régissent les échanges marchands. Le monde actuellement est partagé en deux, on peut dire en deux camps, les marchands entrepreneurs et les clients producteurs. La première de ces catégories donc est également articulée autour de deux superpuissances, donc le marchand de monnaie et le marchand de biens. Alors le marchand de monnaie, lui, il crée et il vend toujours moins de monnaie qu'il ne demande aux entrepreneurs d'en rembourser. Le second, c'est-à-dire le marchand de biens, lui, il vend toujours ses produits plus chers à ses clients producteurs qu'il ne leur donne d'argent pour les fabriquer. C'est-à-dire que, globalement, l'entreprise est débitrice... nous sommes tous, nous, en tant que clients producteurs, continuellement débiteurs de l'entreprise globale. Et l'entreprise globale elle-même, elle est continuellement débitrice de l'entreprise de fabrication d'argent. Et globalement, également, les deux entreprises sont en faillite et pourtant le système ne dépose pas le bilan. Mais il continue, par le biais de ces mécanismes, il continue de renforcer son pouvoir tout en créant et maintenant la grande misère du monde. Donc, comme nous sommes pris, nous, dans ce système, nous, y compris les gens qui veulent faire de la décroissance par les AMAP, en tant que producteurs, nous sommes soumis à ces conventions-là de toujours continuellement renforcer, consolider notre dette. Eh bien, nous sommes pris dans ce système et nous pouvons y échapper dans le cadre du marché.
Voilà. Bon, je voudrais répondre sur éviter l'ambiguïté, comme j'ai dit. Que la société de décroissance ne devrait pas reposer sur le marché, mais ne doit pas nécessairement exclure les marchés. Alors, je fais référence à tout un débat au sein de l'économie et de l'anthropologie, c'est-à-dire que dans l'histoire des sociétés humaines, on a répertorié jusqu'à présent trois modes de circulation des biens, des marchandises. C'est la réciprocité, c'est-à-dire le système basé sur le don, qui généralement fonctionne chez nous encore au sein de l'univers familial, parce qu'entre les parents et les enfants, entre les époux, on ne se vend pas des biens et des services, on se les donne. Et le don, bien analysé par Marcel Mauss, repose sur cette triple obligation, obligation de donner, obligation de recevoir et obligation de rendre. On sait que les sociétés traditionnelles, et en particulier les sociétés primitives, fonctionnent très largement au don, qui n'est pas une générosité gratuite, parce qu'il y a une obligation de rendre, il y a une dette qui est engendrée, mais ce n'est pas simultané, il n'y a pas d'argent qui circule, etc. La deuxième forme, c'est la redistribution. Ça suppose une autorité centrale qui centralise. Redistribution, il y a le mot tribu dedans, c'est-à-dire qui reçoit, perçoit un tribut ou un impôt et qui le redistribue sous forme d'allocation familiale, sécurité sociale, éducation gratuite, etc. Bon, c'est chez nous l'État-providence qui a fonctionné essentiellement à la redistribution. Et puis, il y a l'échange marchand. Alors, l'échange marchand existe dans énormément de sociétés. Mais, comme disait, alors, monsieur
comment il s'appelle là, le numéro 2 du MEDEF, Kessler, sur France Culture, un jour, j'entends Kessler un dimanche matin, disait « Les Français adorent le marché ». Vous voyez, les Français, le dimanche matin, ils vont aux puces, etc. Ils adorent acheter, troquer, discuter, etc. Donc, le marché, c'est fantastique, c'est populaire, etc. Oui, seulement, Monsieur Kessler fait la même chose que vous. Il confond deux choses. Les marchés, avec un M minuscule, et le marché, avec un M majuscule. Alors, effectivement, les marchés existent depuis très longtemps. Il y avait des places de marché, des halles, etc. Dans tous les pays du tiers-monde, vous avez des marchés et des marchandages. Donc on vient là, mon ami, tu es mon premier client, je te fais un rabais, tu me prends ça, on discute, et chacun essaye de trouver un prix qui convient à l'autre, n'est-ce pas ? Et finalement, on instaure des relations de clientèle, qui sont des relations presque d'amitié, parce qu'ensuite on retrouve son client, etc. On a des obligations avec son client, on lui fait un rabais, la fois suivante on va toujours chez la même personne, etc. Donc au fond, il y a bien un échange entre des personnes qui, a priori, n'ont pas d'obligations les unes envers les autres, comme dans le don. Il y a une certaine forme d'anonymat, mais en même temps, ce qui est sympathique dans ces marchés, dont il existe encore quelques traces chez nous, aux puces ou ailleurs, c'est que ces marchés, ces petits marchés-là, il y a une relation sociale qui s'instaure, et il y a quelque chose de l'esprit du don qui pénètre dans ces marchés. Et je crois qu'une société, puisqu'on n'est plus dans une tribu, on ne vivra plus maintenant dans des tribus limitées, dans des familles, etc., pour faire circuler les biens, les marchés, c'est formidable, et c'est pas du tout antipathique, c'est des lieux de rencontre. On va même, dans la plupart des sociétés, on va dans ces marchés, on fréquente ces marchés, parce que c'est aussi le forum et l'agora. Agora en grec, ça veut dire marché. Hein. C'est aussi le lieu public où on crée de la sociabilité. Mais le marché des économistes, le marché avec un grand M, c'est tout à fait différent. C'est un mécanisme abstrait qui met en relation tout, c'est-à-dire qu'on va marchandiser tout, et en particulier ce que, dans les sociétés traditionnelles, on n'aurait jamais marchandisé, la terre et l'homme. Alors, il faut démarchandiser le travail, parce que c'est la vente et la force de travail, etc. Et la terre, parce que la terre, c'est le terroir, et c'est là, et ça renvoie au local. Donc, il faut, je crois, faire toujours la distinction. Il ne faut pas se priver, il ne s'agit pas d'abolir les marchés comme la monnaie, etc. J'ai dit ce matin, il faut se réapproprier la monnaie. Il faut aussi se réapproprier les marchés et remettre en cause le marché, c'est-à-dire la transformation du monde en marchandise.
Oui, Sylvain, donc, je sais pas,
attends,
non, ça marche pas là.
Micro, là.
Il est en marche, voilà. Vous m'entendez? Oui, donc je me pose deux questions, moi, suite à la table ronde de cet après-midi et puis aux interventions de la salle. La première, c'est sur l'armée. Donc je rebondis sur ce que disait Madeleine et une dame du fond qui parlait de récession en France. Il y a un domaine qui échappe complètement à la récession des crédits publics, c'est l'armement. Hein, l'armement en France se développe particulièrement. On a un gouvernement qui a la prétention de se mesurer en termes de puissance militaire aux États-Unis, alors que les États-Unis actuellement doivent dépenser à peu près autant d'argent que le reste du monde en armement. Donc je me dis, est-ce que la France a encore envie de jouer à la puissance qu'elle fut peut-être à une époque? Et pourquoi, surtout je me demande, pourquoi on entend si peu de critiques sur l'armée en France? C'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à comprendre. On a dit plus ou moins, enfin Madeleine le disait, que c'était un secteur particulièrement nocif et qui en termes de décroissance devrait figurer dans les priorités de toute première urgence. Et je trouve que dans l'ensemble des courants, que ce soit altermondialisme, etc., la notion de non-violence et de critique de l'armement est particulièrement absente en ce moment. Moi, j'ai quelques oncles qui se sont investis beaucoup dans ces mouvements, et j'ai l'impression que ma génération est complètement inculte sur l'idée qu'on puisse être non-violent et que ce soit un combat intéressant. Donc là, il y a une première grande chose. Et là-dessus, je voudrais quand même dire qu'on a répété très longtemps qu'on allait droit dans le mur et que donc on s'approchait d'une ère de conflit. Moi, mon réflexe, quand je vois des personnes qui vont s'empailler, c'est de commencer par les désarmer, quoi. Si je vois des gamins dans la cour qui s'engueulent avec des bâtons, ma première idée, ça va être d'enlever les bâtons. Hein, donc si la France s'arme avant une ère de conflit, qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi. Je me pose des questions sur la stratégie réelle du gouvernement. Est-ce qu'on se prépare à l'apocalypse ou est-ce qu'on va vers une coopération plus grande, quoi. Et ma deuxième réflexion qui rejoint la première, c'est sur les, les émotions qu'on est en train d'essayer de porter, à répéter, là, on a répété énormément hier qu'on allait droit dans le mur. Bon, j'ai ma responsabilité parce qu'avec mon petit blabla sur le changement climatique, en général, quand je m'arrête, les gens sont déprimés. Mais là, ce que j'ai entendu aujourd'hui à la table ronde, c'était un message d'espoir de la part de Pierre Rabhi et de Serge Latouche, qui était de dire on va vers un monde meilleur dans la décroissance. Et je pense que répéter qu'on va dans le mur, ça incite les gens à se replier sur eux-mêmes, ça incite à une montée des égoïsmes, et moi ça ne m'a jamais mobilisé de savoir qu'on allait droit dans le mur, quoi. Ce qui me mobilise, c'est l'idée qu'on puisse s'en sortir. Voilà, donc...
de 1972, qui s'appelait « Les objecteurs de la croissance », et dans laquelle signaient des gens tout à fait intéressants comme Jacques Attali, Chevènement, etc. Rocard, oui, oui. Dans la série Félix Potin. Ah, sous un pseudonyme alors. on va le dire au micro. On va le dire au micro parce que sinon les gens vont pas entendre. Il y a ici une équipe qui tourne un film. Alors, en revanche, je ne sais pas exactement quel est le but du film, mais ils aimeraient bien savoir si vous seriez d'accord pour qu'on allume la lumière pour qu'ils tournent leur film. Est-ce que vous voulez venir expliquer Attendez, il explique d'abord ce que c'est que son film.
En fait, vous faites ce que vous voulez. Nous, on est une télé associative qui s'appelle Zaléa TV, qui fait partie du tiers secteur associatif. Ça veut dire que ce qui sera tourné ici ne sera pas commercialisé, quoi qu'il arrive. C'est la première chose. La seconde chose, c'est que je pense que vous êtes face à un paradoxe. C'est-à-dire qu'on fait ce colloque se passe dans l'hôtel de ville. Vous voyez un petit peu le décor qui nous entoure et tout. La climatisation est allumée. On a les fenêtres ouvertes. Si vous voulez, on éteint les lumières, on ramènera pas d'image. Et puis, si vous voulez, on les allume. Éventuellement, on pourra diffuser cette information. Voilà.
Bon alors, on passe au vote, vous levez la main, est-ce que vous êtes d'accord pour allumer les lumières ?
Non.
Bon, j'ai l'impression que vous êtes majoritairement d'accord, allez. Vous voulez qu'on enlève la clim ? D'accord, il n'y a pas de climatisation, elle est déjà éteinte.
C'est un peu gênant, quand même, qu'on ait des images écologiques avec les pleins feux de Versailles.
Ah ben, il se calade, il va faire sa tournure qui se tenait dans la caverne de Platon.
En effet, bon, en effet, c'est ce que vous avez dit ce matin, et je propose qu'on répète pas, parce qu'il y a vraiment énormément de questions. Il y a monsieur là.
Donc,
s'il vous plaît.
Allez vers la reine, l'exploitation des ressources. Et donc, c'est la croissance zéro. Elle est là.
Vous venez et vous prenez l'autre micro, s'il vous plaît.
Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus qu'à se suicider, quoi. Non, parce que, si on ne croit pas qu'on est dans une démocratie, quand même, en France, et qu'on a quand même un système politique qui est démocratique, qui est le minimum syndical en termes de démocratie.
Alors maintenant, je dois vous dire que Laetitia Carton, qui est la personne avec... Ah ben non, remets les écouteurs sur les oreilles, parce que c'était ça le signe. Dans l'embrasure de la fenêtre, les écouteurs sur les oreilles, elle collectionne les utopies. Donc si pendant la pause, vous avez envie d'aller lui raconter vos utopies... Mais pourtant ça marche, c'est ça que je ne comprends pas. Bah, j'entends... Enfin, vous n'entendez pas là ? Bon, donc, il faut que je crie. Laetitia Carton, qui est dans l'embrasure de la fenêtre avec des écouteurs sur les oreilles, collectionne, oui, je sais, collecte les utopies et souhaiterait collecter les vôtres, si vous êtes d'accord, pour les lui confier à l'heure de la pause. D'autre part, il y a deux modifications dans notre programme de l'après-midi. Nous avons deux défections à déplorer, celle d'Agnès Bertrand et d'Arlette Arouche. C'est une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça laissera plus de temps pour le débat. Donc cet après-midi, on a un petit peu changé l'ordre des choses et on vous propose une première session donc, avec Serge Latouche et Pierre Rabhi et une deuxième session avec... Michel et Michel qui nous parleront de modération et d'exemples concrets, pratiques et vécus de décroissance personnelle.
Donc mes deux premiers enfants n'ont été nourris qu'au lait animaux, au lait de vache. Le troisième a été nourri humainement. Et le quatrième qui va venir sera aussi nourri humainement. Donc voilà l'action que j'ai pour l'instant. Non reconnue par les autorités, évidemment. Voilà, ben, le débat il est très simple. C'est donc savoir comment on peut agir personnellement au quotidien. Effectivement, je crois qu'il y a une urgence et s'il faut attendre une politique sur laquelle on va déléguer, on risque d'attendre peut-être trop longtemps.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions ?
Certainement, il faudrait commencer par discuter de cette question des échelles de valeur.
Et de l'ordre dans lequel on va poser les toutes les questions. Pour exemple... En Italie, un jour, on dit pour la santé, il n'y a pas d'argent. Pas trop d'argent. On a pratiqué
des coupes
le jour après. Dans l'université, on a pratiqué des coupes, on n'a pas d'argent, il faudrait plus. Il faudrait bien que les personnes sachent où se confrontent sur les escaliers des priorités.
Les échelles de priorité.
Les échelles. per esempio, noi anche in Italia, anche l'Italia è un paese che sta invecchiando molto. Io penso che occorra privilegiare gli interventi a favore dei giovani piuttosto che privilegiare gli anziani.
Oui, comme nous, l'Italie est un pays qui vieillit et elle pense qu'il faudrait privilégier les jeunes générations plus que les vieillards.
Per esempio, l'éducation, les dépenses pour l'école, les dépenses pour les jeunes. Naturellement, moi, je suis presque vieille.
Non,
mais en tout cas, je pense que...
Ça viendra.
Ça viendra, mais en tout cas, je pense que c'est plus juste construire les bases pour le domani, ecco,
oui, oui.
Piuttosto que favorir... C'est déjà une scelta di...
Voilà, son ordre de préférence va plutôt pour favoriser l'avenir et les jeunes plutôt que de s'occuper trop, choyer trop les vieux.
Alors, ça peut traduire dans des choix pour l'argent.
Oui.
Et décider de donner plus d'argent dans une déterminée partie que dans l'autre. pour faire un exemple.
Un exemple de type de préférence qui se pose, puisque de toute façon, il s'agira toujours de répartir une certaine pénurie, parce qu'il n'y a jamais suffisamment pour satisfaire toutes les aspirations.